Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est la troisième partie de l'étude intitulée « La personne et l'œuvre de Jésus-Christ ». Et le thème d'aujourd'hui, puisque c'est la troisième partie, c'est le sens de la mort du Christ. De la description de la personne du Christ, nous passons maintenant à l'examen de son œuvre et notamment de sa mort. Pourquoi fallait-il qu'il mourût et quelle est la portée de cet événement? En sautant ainsi par-dessus son ministère pour en arriver directement à sa passion, nous ne voulons pas prétendre que ses enseignements, ses rencontres et ses miracles soient de peu d'importance. Mais outre qu'on ne peut pas parler de tout en quatre leçons, il est donc vrai de dire que sa vie culmine et trouve sa véritable signification dans la semaine de Pâques. C'est d'ailleurs sur le sens de sa mort que les discussions ont été les plus vives, et voilà aussi pourquoi j'ai choisi de m'y arrêter plus longuement. Voyez-vous, on a prétendu que l'apôtre Paul était presque le seul écrivain biblique à accorder une valeur expiatoire à la mort de Jésus-Christ. C'est là, à mon avis, une simplification hâtive et qui répond à des idées préconçues. Sans parler de l'Ancien Testament, et notamment du fameux texte d'Ésaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous découvrons là une impressionnante convergence dans les écrits du Nouveau Testament. Les évangiles synoptiques fournissent de nombreuses indications. Il y a d'abord le texte si souvent cité de l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 45 et parallèle, que le Fils de l'homme est venu, et ceci pour donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Ensuite, il y a les paroles par lesquelles Jésus-Christ annonce sa mort. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, et qu'il fût rejeté et mis à mort, et qu'il ressuscita trois jours après. Évangile de saint Marc, chapitre 8, verset 31. Les disciples ne l'avaient pas compris, mais Jésus-Christ le sait dès le commencement. Il a agi depuis le début en fonction de cette fin que sa naissance annonce déjà. Et dans son dernier repas avec ses disciples, il prédit même sa mort, non pas comme un simple échec, mais comme un acte nécessaire à notre salut. « Mon corps est brisé pour vous, mon sang est répandu pour la rémission des péchés. » Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29. Vous pouvez noter tous ces versets, c'est important. Et aussi les réécouter, ça ne fait de mal à personne. Donc, pendant son procès, il ne dissimule pas que cette mort acceptée après une terrible lutte répond à la volonté rédemptrice de Dieu, selon Évangile de Marc, chapitre 14, verset 36, ainsi que le chapitre 49, verset 61. Et tout à la fin, lorsque il confie ses ultimes instructions à ses disciples pour éviter qu'ils ne s'y trompent, Jésus-Christ interprète lui-même sa mort comme l'événement salutaire par excellence. Il est écrit, leur dit-il, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son saint nom. Évangile de Saint-Luc, chapitre 24, versets 46 à 47. À ces attestations directes s'ajoutent d'innombrables témoignages indirects. Tout annonce, absolument tout, annonce le plan de Dieu et par lequel il accomplira notre délivrance dans la mort du Messie. Et la parabole du serviteur impitoyable, où le roi remet la dette en la prenant sur lui-même, ainsi que la fameuse prophétie « si le grain ne meurt » et la défaite de Satan qui tombe du ciel, les miracles signes de la victoire, ainsi que l'opinion des disciples sur Jésus-Christ. Comment échapper à la conviction que tous ces récits s'accomplissent dans cette mort et cette résurrection. L'étendue des récits consacrés à la Passion prouve déjà à elle seule l'importance accordée à cette fin. Chez l'évangéliste, ou si vous voulez l'apôtre Jean, cette conception apparaît plus clairement encore. La notion de l'agneau implique que le sacrifice est déjà l'expiation dans le sens d'Exode chapitre 12 et du Lévitique chapitre 16. La parole centrale de l'évangile de Saint Jean que nous connaissons tous par cœur, Jean 3 verset 16, rattachée à Nombre 21 et reprise dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 9 à 10, résume le contenu tout entier de l'événement. Dieu donne son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés, afin que nous ne périssions pas. En livrant sa vie pour ses brebis, le bon berger les arrache carrément à la mort et leur rend la vie, selon Saint Jean chapitre 10. Et l'expiation est clairement attestée dans la première épître de Jean chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 17. Donc, le livre des Actes applique à Christ le passage d'Ésaïe 53, et dans la rencontre de Philippe avec l'eunuque, ainsi que le rôle du sang, est clairement indiqué dans Actes, chapitre 20, verset 28. Donc Actes des apôtres, chapitre 20, verset 28, qui correspond à Ésaïe 53. Les lettres de l'apôtre Pierre sont tout à fait explicites sur ce point-là, et le rachat, le sang, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, eh bien tout ceci est fortement accentué. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. L'épître aux Hébreux présente la mort du Christ au moyen de la théologie du sacrifice développée dans le Lévitique, et cette notion centrale appelle celle du sang, du pardon, du rachat, du sacrificateur et du médiateur. Toute la lettre serait à citer. Enfin, l'Apocalypse ne laisse pas le moindre doute. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, des femmes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Le sang de l'agneau joue dans ce livre le rôle principal. Mais il est certain que l'apôtre Paul est encore le plus abondant. Relevons le texte central de Romains, chapitre 3, verset 21. Dieu destine cet homme à mourir afin qu'il soit une victime propitiatoire et qu'il opère ainsi par son sang notre rédemption. Je crois que ça vaut la peine de bien comprendre ce fameux passage de Romains chapitre 3 verset 21, que Dieu destine cet homme, cette femme. C'est certainement pas cette femme, mais vous avez bien compris, c'est Christ. Christ, tout simplement, c'est aucun d'entre nous, mais que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a été destiné à mourir afin qu'il soit une victime propitiatoire et qu'il opère ainsi par son sang précieux pour notre rédemption. Je crois que cette fois, on l'a bien compris. Et dans cet acte, Dieu révèle sa justice en le condamnant, lui, en lieu et place des pécheurs, afin de justifier ces derniers. Ce n'est donc pas Bouddha, ni Confucius, ni une grande éminence de certaines églises, mais c'est bien Jésus-Christ qui est mort pour nous afin de nous rendre la paix, selon Romains chapitre 5. Et pour nous, signifie chez l'apôtre Paul, à cause de nous, à notre place et à notre faveur. C'est par cet acte objectif que Dieu renverse le mur de séparation et nous réconcilie avec lui-même, rétablissant la paix entre les deux partenaires séparés. Il condamne le péché dans cette chair pour nous rendre la vie. Gloire à Dieu. Et cette mort est la condition et le prix de notre rachat. À cause de cette mort, Christ est fait malédiction pour nous. Galates chapitre 3, verset 13. Donc ici, la substitution est clairement attestée. Il y a véritablement échange entre lui et nous, ce qui est le sens même du mot « réconciliation ». Il est fait péché, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Donc, il est condamné, il est maudit, afin que nous soyons délivrés de cette tyrannie et rétablis dans notre vérité originelle. Associés à lui par le Saint-Esprit, nous mourons et ressuscitons avec lui. Vous avez bien compris, avec lui, c'est le sens du baptême et de la Sainte Cène. Toute la foi se résume dans cette participation à sa mort et à sa résurrection. Les termes classiques figurent tous dans les descriptions de l'apôtre Paul excepté celui de sa satisfaction, ce qui ne signifie nullement d'ailleurs que l'idée en soit absente. Donc, cette liste impressionnante d'affirmations convergent, ou si vous voulez, convergentes, explique que l'Église ait confessé dès le tout début, la valeur expiatoire de la mort de Christ. Sur certains points, les discussions furent assez nourries, mais dans l'ensemble, on peut observer un accord général sur la valeur rédemptrice de cette mort. Le grand historien Harnacker le reconnaît sans embâge. L'incarnation étant toujours supposée, écrit-il, c'est la mort du Christ qui est devenue en Occident le punctum salien. Déjà avant saint Augustin, elle est considérée sous tous ses aspects possibles comme sacrifice, comme réconciliation, comme rançon et comme substitution générale. Jean Chrysostome, vous avez bien compris, Jean Chrysostome, qui a vécu entre 344 à 398, a dit ceci. Le démon avait renversé Adam avec le bois de l'arbre. Ah, il était bien inspiré, Jean Chrysostome. Donc, je répète, le démon avait renversé Adam avec le bois de l'arbre. Jésus-Christ, lui, a terrassé le démon avec le bois de la croix. C'est pas mal. Je répète, le démon avait renversé Adam avec le bois de l'arbre, mais Jésus-Christ a terrassé le démon avec le bois de la croix. Le bois de l'arbre a jeté les hommes dans l'abîme, mais le bois de la croix les en a retirés. Alléluia. Le bois de l'arbre a dépouillé l'homme de ses privilèges et l'a enfermé dans l'obscurité d'une prison. Mais le bois de la croix a dépouillé de ses armes le vainqueur de l'homme et l'a montré vaincu à toute la terre. La mort d'Adam s'est étendue sur ceux qui sont venus après lui. La mort de Jésus-Christ, elle, a rappelé à la vie ceux qui étaient nés avant lui. Saint Augustin a été très précis sur ce point. Ne vous en faites pas si nous disons des fois saint pour une célébrité d'autrefois. Ça n'a rien à faire avec l'idée que ces hommes étaient des saints dans le même sens que Jésus-Christ. Pas du tout. Ils étaient pécheurs, mais sauvés heureusement par grâce. Mais on peut quand même dire, saint Augustin, qu'il a été très précis sur certains points. Et combien tu nous as aimés, dit-il, ô bon Père, ô oui, toi, qui n'as pas épargné ton Fils unique, mais qui l'as livré pour nous, nous les impies. Comme tu nous as aimés, nous, pour qui ton Fils bien-aimé s'est soumis jusqu'à la mort de la croix, lui le seul qui soit libre de la mort. C'est pour nous qu'il a été devant toi vainqueur et victime, et vainqueur précisément parce qu'il était victime et sacrificateur précisément parce que sacrifice lui-même, faisant de nous, l'esclave que nous étions, des fils pour toi, et se faisant ton esclave de fils qu'il était. On pourrait donc multiplier ces témoignages presque sans limite. Les théologiens du Moyen Âge ont en effet conservé cette foi à laquelle saint Anselme, Bonaventure et saint Thomas, notamment, ils ont donné un relief admirable. Anselme, par exemple, il dit que l'honneur de Dieu a été atteint par le péché et qu'en conséquence, cet honneur devait obtenir satisfaction par la mort du Fils et nous justifier par sa condamnation. C'est quand même extraordinaire ce qu'il dit là. Je répète, Anselme, il dit que l'honneur de Dieu a été atteint par le péché et qu'en conséquence, cet honneur devait obtenir satisfaction. Satisfaction par la mort du Fils de Dieu pour nous justifier par sa condamnation. On a déduit que Dieu avait besoin de la mort du Christ pour rétablir son prestige. C'est là simplement un petit malentendu sur le sens des termes. Voyez-vous, pour saint Anselme, Bonaventure et saint Thomas, l'honneur de Dieu ne signifie pas du tout sa vanité, mais le rayonnement de sa personne divine. Traduit en langue moderne, son raisonnement se développe de la façon que voici. Dieu, dans les perfections de son amour, de sa justice, de sa patience et de sa miséricorde, ne peut admettre d'être bafoué par le péché des hommes. Et ce faisant, il défend notre propre intégrité et notre bien. Il réprouve donc ce qui nous fait souffrir et le condamne, non pas en nous, car nous ne l'aurions pas supporté, mais en lui, pour nous épargner, tout en agissant selon la vérité. Il préfère donc se frapper lui-même pour que le mal soit détruit, mais sans détruire la créature qui sera au contraire réhabilitée par cet acte de justice. En prenant à sa charge notre faute, il nous fait vivre. Et c'est ainsi que sa justice, tout en étant satisfaite, au lieu de nous écraser, eh bien, elle nous délivre et nous sauve, ce qui est le fond même de l'Évangile. Il n'y a rien là que de suprêmement réjouissant. On peut aussi dire de formidablement réjouissant. Sa justice se combine avec son amour pour nous délivrer. Et voilà donc ce que l'honneur de Dieu exigeait, contrairement à la nôtre. La justice de Dieu, elle réhabilite toujours. Oui, les réformateurs ont maintenu cette vision et ils l'ont fortement développée en même temps que le fameux message de la justification gratuite. La seule condition du pardon n'est pas la mort du Christ, mais le repentir du pécheur. Nous voilà. Et si d'autre part la justice de Dieu est satisfaite par le sacrifice de Jésus-Christ et que la dette est ainsi payée, le pardon n'est pas gratuit. Autrement dit, le rôle de Dieu est de pardonner en effaçant la faute, mais il n'est nullement nécessaire pour cela qu'un médiateur s'interpose pour subir en quelque sorte notre condamnation, notre repentance, elle va donc suffire. L'accent porte maintenant non plus sur l'intervention du Fils de Dieu, mais sur un changement au-dedans de nous. Au surplus, si Christ n'est pas le Fils de Dieu, il est vrai que son œuvre enlève au pardon sa gratuité. En revanche, s'il l'est et que Dieu choisisse ce moyen de nous accorder sa grâce, celle-ci est bien gratuite, puisqu'elle ne réclame rien de nous. Mais s'aucun continue. Il est vraiment très injuste que l'innocent soit châtié en lieu et place des coupables. Oui, c'est vrai, si cet innocent est un homme quelconque, là évidemment, mais attention, si le Fils de Dieu, où est l'injustice? D'ailleurs, la mort du Christ ne saurait produire cet effet, car Jésus-Christ n'a pas souffert la mort éternelle. Et heureusement pour nous, sa mort ne peut donc compenser notre mort qui est, elle, éternelle. Au surplus, sa croix n'est pas tant un châtiment qu'une épreuve. Une épreuve à strictement parler, la satisfaction ne peut être fournie que par chaque pécheur et non par un innocent accablé en lieu et place des coupables. Sans compter que cette mort ne saurait contrebalancer toutes nos défaillances. Cette doctrine répugne donc à la conscience morale, car elle prétend que nous sommes justifiés sans être vraiment saints. En vérité, disent les tordus que les expressions bibliques ne sont que des symboles et des figures. Pourquoi pas pour eux, mais j'espère pas pour nous. Quel serait donc, chers amis, le sens de la mort du Christ dans cette perspective? Quelle signification faut-il lui attribuer si elle n'est pas expiatoire? Si c'est seulement des expressions, des symboles, des figures, etc. Je répète, quel serait donc le sens de la mort du Christ dans une pareille perspective? Et quelle signification faut-il lui attribuer si elle n'est pas expiatoire? Nions carrément tout rapport entre la souffrance du Christ et la punition divine du péché, Schleiermacher estime que ce qui nous sauve, c'est moins la croix que la manière dont Jésus-Christ l'accepte. Par là, il nous invite à continuer ce qu'il a commencé. Il n'y a là aucune satisfaction vicaire, comme l'on disait au Moyen-Âge, c'est-à-dire aucun échange ou substitution. La mort de Jésus-Christ est une preuve de sa sympathie pour nous, le dernier acte de sa fidélité. Nous ne sommes pas transformés par elle, mais elle nous appelle à un changement qui doit se produire dans notre conscience. Alléluia. Et pour la théologie libérale qui suit Ritschl, cette mort est la conclusion d'une vocation fidèlement acceptée, un résumé émouvant du sens de la carrière de Jésus-Christ qui nous accordera le sentiment de notre réconciliation avec Dieu. Pour Sabatier, elle est le témoignage de l'amour de Dieu par lequel il touche nos cœurs afin que nous nous repentions. Le changement de nos relations avec Dieu est acquis non par elle, mais par notre conversion. Vinet a déjà indiqué cette nouvelle interprétation en écrivant « Christ n'est pas venu pour nous délivrer de la souffrance et de la mort, mais plutôt pour nous apprendre à souffrir et à mourir. La croix n'opère plus à proprement parler notre réconciliation. Elle nous inspire et nous invite à adopter une nouvelle attitude, un changement. Ainsi, tout le drame est transporté de lui à nous. L'essentiel se passe désormais en nous, dans notre repentance et notre conversion, plutôt que dans sa mort et sa résurrection. Tel est le subjectivisme protestant. Le salut est dans une imitation du Christ qui nous est rendu possible par son sacrifice. La croix n'est plus que d'une nécessité relative. Nous écartons toute idée d'une satisfaction réclamée par une justice de Dieu qui ne pardonnerait qu'en s'infligeant à lui-même une sorte de violence. Cette conception suppose chez l'homme un certain pouvoir de reconnaître l'autorité du Christ, de s'unir à lui et de l'imiter. Elle fait de l'Évangile un appel à vaincre nous-mêmes. Nous devons vaincre nous-mêmes le péché plutôt qu'une rédemption. On a donc remarqué, avec raison, qu'elle sous-estimait la part de Dieu dans notre salut pour accentuer celle de l'homme. Elle aboutit tôt ou tard à un légalisme, puisque elle insiste davantage sur ce que l'homme doit faire que sur ce qu'il peut recevoir gratuitement par la foi. Nous voyons donc là quelque chose qui n'est pas très, je voulais dire, très catholique, mais pas très correct. Or, voyez-vous, chers amis, l'Évangile ne nous apprend-il pas que l'œuvre tout entière de Dieu a pour unique but de rétablir l'homme dans ses privilèges, en sorte que plus on insiste sur la grâce, plus l'homme en reçoit les bienfaits. On devrait enfin pouvoir surmonter cette espèce de concurrence pour bien montrer que Dieu n'a pas d'objectif plus pressant que de réhabiliter ou de réhabiliser sa créature. Le vrai problème est de découvrir de quoi l'homme a le plus urgent besoin. Qui peut vraiment le guérir? Certainement pas nous-mêmes. Le cri de saint Paul aurait-il cessé d'être actuel quand il dit, et puis c'était pas n'importe qui, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Je répète, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et la réponse aurait-elle varié ?« Grâce soit rendue à Dieu » par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 7, verset 25. Ainsi, notre protection la plus sûre ne vient pas de nous, mais bel et bien de Dieu. Si l'Église n'apportait pas cette réponse, une fois de plus, ce seraient les pierres qui crieraient. Et quand on lit des ouvrages comme celui de Kazantzaki ou celui de Faulkner, Requiem pour une nonne, je répète, quand on lit des ouvrages comme celui de Kazantzaki ou celui de Faulkner, Requiem pour une nonne, eh bien on peut se demander en effet si la vérité ne retentit pas plus clairement parfois en dehors de l'institution ecclésiastique qu'en elle-même. Ici donc, plus la moindre atténuation, la misère des hommes apparaît dans toute sa crudité, mais sous le signe de la grande espérance qui n'est pas l'amélioration progressive d'une humanité vouée à des démons, mais l'intervention très nettement expiatoire de Dieu, seule issue à nos tourments, n'oublions pas. Nous pouvons donc nous détourner de nous-mêmes sans aucune arrière-pensée et accueillir ce remède qui vient d'ailleurs, et qui, à cause de son origine, est bien plus sûr que nos propres inventions, nos efforts et toutes nos tentatives de perfectionnement. Mais comment décrire alors ce remède aussi inattendu que souverain? Un certain nombre de notions se présentent pour l'expliquer. Premièrement, la mort du Christ est d'abord un sacrifice. Ce mot nous est imposé par le contexte dans lequel l'œuvre de Dieu s'est accomplie. Le Nouveau Testament nous l'a décrit à partir des sacrifices d'animaux pratiqués dans l'ancien Israël, d'où les termes d'agneau, de victime, de sacrificateur, de sang, de rachat et aussi d'expiation. Mais on aurait tort de déprécier ce vocabulaire à cause de son origine. L'Ancien Testament n'est qu'un tremplin qui a permis aux écrivains du Nouveau Testament d'expliquer l'œuvre du Christ avec les représentations dont il disposait. On pourrait fort bien imaginer que si Christ était né dans un autre peuple, les expressions utilisées par ses témoins eussent été différentes. Mais le fait est là. Les disciples étaient juifs, un point c'est tout, et on ne peut donc leur reprocher d'avoir utilisé leur langage pour nous transmettre leur témoignage. L'essentiel et de découvrir la portée de ces mots qui ne sont en fin de compte que des outils. Or, le terme de sacrifice est la meilleure définition de l'amour de Dieu. Il souffre à ce point de notre situation actuelle qu'il décide de la réparer à son propre préjudice. Et c'est ainsi qu'il nous dévoile son cœur de père. « Tu vas mourir », écrit Falkner, et au temps du Lévitique, eh bien on pensait que l'offense pouvait être effacée par la mort d'un animal. C'était une convention, mais qui correspond bien aux données du problème. Le peuple est révolté et sa désobéissance est à la fois son péché et son malheur. Dieu ne peut que réprouver son attitude, non pas seulement parce qu'elle le blesse dans son amour de père, mais à cause aussi de la souffrance qu'elle produit chez les enfants. Le sacrifice devait donc réparer cette situation par une suite de démarches. D'abord, il satisfait le jugement de Dieu par la mort de cet animal. Quiconque se dresse contre Dieu ne peut que mourir. En effet, car la mort est le salaire du péché. Mais comme dans le sacrifice d'Isaac, le changement de victime indique que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, et Isaac vivra, tandis que le bélier sera sacrifié. Ce sacrifice en apaisant la colère de Dieu, permettra à son amour de triompher du péché en l'effaçant. Le sang de la victime sera répandu sur l'autel pour la justification des pécheurs, et les Israélites, en mangeant sa chair, ils assimileront le bénéfice de cette mort. Ainsi, par ce sacrifice, les relations entre Dieu et son peuple seront entièrement transformées. Dieu reconquiert donc ses enfants en supprimant l'opposition qu'il est dressée contre lui. Donc, il les purifie et les accueille de nouveau en sa présence. L'alliance est maintenant rétablie par cet acte objectif. Les écrivains du Nouveau Testament ont repris les trois principaux éléments de ce schéma, c'est-à-dire Dieu, la victime et la créature. En ce qui concerne l'attitude de Dieu, ils ont introduit peu de changements. Ils cherchent à nous regagner, mais son amour ne peut fermer les yeux sur le péché. Il exige donc un acte qui soit à la fois conforme à sa vérité et efficace. Et quant à la victime, elle ne peut être un animal ni un homme arbitrairement choisi parmi les coupables. En fait, la seule chose logique serait que tous les coupables payent pour leur propre faute, comme ce fut le cas dans le déluge. Le Nouveau Testament déclare que le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, deviendra la victime nécessaire au rétablissement de l'Alliance. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour l'enlever, il le porte sur lui. Il en subit le châtiment, purifie les pécheurs et reconstitue l'Alliance. Est-il si impossible de croire que Dieu veuille exclure toutes les solutions boiteuses pour choisir, en fin de compte, la seule efficace, s'offrir lui-même en son Fils pour anéantir le péché qui nous écrase? Qui d'autre pourrait le faire que lui, Jésus-Christ? N'est-ce pas la preuve la plus sensationnelle de son amour? Et comment nier que cette solution soit valable si Dieu l'a choisie? Elle lui permet à la fois d'exprimer sa réprobation du mal et son amour pour nous, donc de vaincre Satan et de nous délivrer de sa tyrannie, d'annuler notre péché et de nous réconcilier avec lui. La victime, c'est lui-même dans cet homme, et les bénéficiaires de cet acte ne sont plus seulement les Israélites, mais tous les hommes et les femmes. J'ai dit « et les femmes », bien que ce n'est pas inscrit ainsi, mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu, souvenez-vous, quand la Bible parle des hommes, ça veut bien dire hommes et femmes. Christ nous a donc, chers amis, rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit » et « quiconque est pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit Saint qui avait été promis, selon Galates chapitre 3, verset 13. La loi nous maudit parce que nous lui désobéissons. Ici encore, l'apôtre Paul utilise des idées de son temps. La crucifixion était considérée comme un supplice particulièrement infamant, attestant la malédiction de Dieu. Christ se soumet donc à ce terrible jugement pour nous en délivrer. Nous pouvons le croire et bénéficier pleinement de son œuvre en commettant, ou si vous voulez, en commentant plutôt ce fameux passage. Un célèbre homme de Dieu d'autrefois, c'était Luther. Eh bien, il a commenté Luther ceci ainsi. Nous ne devons pas nous représenter le Christ comme une personne privée, innocente, ainsi que les scolaristiques, tels que Jérôme et d'autres l'ont fait. Une personne qui, en elle-même, serait sainte et juste. Je répète ce que notre ami Luther a écrit. Il a écrit « Nous ne devons pas nous représenter le Christ comme une personne privée innocente, ainsi que les scolastiques tels que Jérôme et d'autres l'ont fait. Une personne qui en elle-même serait sainte et juste. » Il est vrai que Jésus-Christ est une personne parfaitement pure, ça c'est clair, mais il ne faut pas s'arrêter là. Tu n'as pas compris le Christ, même si tu sais qu'il est Dieu et homme, mais tu le comprendras véritablement si tu crois que cette personne très pure et très innocente t'a été donnée par le Père pour être ton sauveur, ça change tout, ou plutôt pour être ton esclave même, qui se dépouillant de son innocence et de sa sainteté, revêt ta personne pécheresse. Ça, c'est extraordinaire, avez-vous bien compris? Donc, notre ami Luther, il dit, ton sauveur, ou plutôt pour être ton esclave, jusque-là, jusqu'à être notre esclave, qui se dépouille de son innocence, même de sa sainteté, et qui revêt ta personne, ma personne pécheresse, porte notre péché, mon péché et ton péché, et même ta mort et ta malédiction. Et il devient ainsi, pour toi et pour moi, victime et maudit, afin de te délivrer, de me délivrer de la malédiction de la loi. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait réécouter. En effet, voyez-vous, notre très miséricordieux Père, nous voyons opprimés et dominés par la malédiction de la loi, tellement emportés par elle qu'il nous était impossible de nous en délivrer par nos propres moyens, envoya donc son Fils unique dans le monde et plaça sur lui tous nos péchés, les péchés de tous les hommes, lui disant, et ça on peut dire, oui, lui disant, par exemple, « Sois, toi Pierre, le renégat, sois, par exemple, toi, l'apôtre Paul, le persécuteur, le blasphémateur, l'oppresseur cruel des chrétiens, toi, David, l'adultère, sois ce pécheur qui changea plutôt, ou qui mangea plutôt la pomme du paradis, nous nous souvenons, eh bien, ce voleur qui fut pendu à la croix, bref, sois la personne qui a commis le péché de tous les hommes. » Ça, c'est merveilleux, non? Soit donc la personne qui a commis les péchés de tous les hommes. Et par conséquent, tu as payé et tu as satisfait pour eux. Je crois que ça vaut la peine de comprendre bien cela. Et pour ça, je vais vous le redire. En effet, voyez-vous, notre très miséricordieux Père Céleste, nous voyons opprimés et dominés par la malédiction de la loi, tellement emportés par elle qu'il nous était impossible de nous en délivrer par nos propres moyens. Il a envoyé son Fils bien-aimé, son Fils unique, dans le monde, et il a placé sur lui les péchés de tous les hommes, lui disant, soit Pierre le renégat, Paul le persécuteur, le blasphémateur, l'oppresseur cruel des chrétiens, toi David l'adultère, sois ce pécheur qui mangea la pomme du paradis, ce voleur qui fut pendu à la croix, bref, soit la personne qui a commis les péchés de tous les hommes. Et par conséquent, tu as payé, il a payé, et il a satisfait pour eux, pour nous. La loi vient donc, et elle dit ceci, « Je le trouve pécheur, et de telle sorte qu'il a pris sur lui les péchés de tous les hommes, et je ne vois de péché qu'en lui. Il faut donc qu'il meure sur la croix. Il a dû mourir pour nous sur la croix, et alors elle se précipite sur lui et le met à mort. Par ce moyen, le monde est donc délivré et purifié de ses péchés. » C'est le commentaire de Galates, chapitre 3, verset 13. Et je crois que il faut ajouter, j'ai dit au début de cette série qu'il est impossible d'expliquer tous les points importants en quatre leçons, souvenez-vous. Et il est donc important que vous puissiez vous intéresser à ce qui concerne l'importance primordiale de la repentance. Voyez-vous, la conversion, le salut est très important afin de suivre Christ en véritable chrétien. On ne peut pas suivre Christ sans avoir compris que nous devons nous repentir, que nous devons passer par la conversion, par le salut, pour suivre Christ en véritable chrétien. Ce qui est pas du tout la même chose que simplement, je crois, simplement être membre d'une dénomination religieuse. Ça ne suffirait pas. Et Luther fait ici allusion à Lévitique 16, versets 20 à 22. Il y a donc vraiment transfert de nos fautes sur cette victime qui accepte de s'en charger pour nous les enlever. Et le mot d'expiation est par conséquent bien à sa place, du moment que ce transfert, car il y a vraiment un transfert, et la mort qui le suit, puis suffire à nous rendre la vie. N'est-il pas extraordinaire et merveilleux, chers amis, que Christ veuille bien quitter sa gloire éternelle pour s'abaisser jusqu'à cette mort sur la croix, comme nous le lisons dans Philippiens chapitre 2, et ainsi payer le prix de notre rachat. Vous avez été racheté à un très grand prix, écrit encore l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, et dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous avez donc été rachetés par le sang précieux de Christ. Le sang, comme nous le savons, c'est la vie. Et Christ donne son sang précieux pour que nous soyons rachetés, lavés, purifiés, c'est-à-dire arrachés à celui dont nous sommes présentement les esclaves. Aucun de ces termes n'est inapte à décrire le geste inouï de Dieu. On a beaucoup, beaucoup discuté pour savoir si la rançon devait être payée à Dieu ou au diable, mais la question ne se pose pas ainsi. Le terme de rançon est utilisé pour montrer qu'un prix devait être effectivement payé pour libérer ces prisonniers qui se trouvaient aux mains de l'ennemi. Donc la somme versée est la mort du Fils de Dieu qui a tout payé à notre place, comme nous le lisons dans 1 Timothée chapitre 2 verset 6. Jésus-Christ s'est donné en rançon pour tous. Et le raisonnement est donc absolument cohérent et chacun de ces termes apporte sa contribution à la description. Dieu accepte en son Fils bien-aimé de devenir la victime du péché et par sa défaite suivie de sa victoire. Et donc, pour nous délivrer totalement. Qui contestera que ce soit le témoignage de la Bible entière? Qui va contester que ça ne se trouve pas dans la sainte parole de Dieu? La sainte scène, elle, continue la Pâque juive, et nous attribue les bénéfices de cette mort. Deuxièmement, par ce sacrifice, Dieu nous justifie. Sa justification signifie que Dieu nous replace dans cet acte, dans une juste situation par rapport à lui et aussi par rapport à nos frères et sœurs. Le péché a tout faussé en nous coupant de Dieu et de nos semblables. Mais maintenant, Dieu se montre juste, non pas en nous faisant périr, mais en nous justifiant. Ça change tout. Comment comprendre ce mot de l'apôtre Paul, sinon en disant que la justice de Dieu aurait dû nous condamner, mais qu'au lieu de le faire, elle condamne Jésus-Christ pour pouvoir nous pardonner. Cette justice, donc, trouve le moyen de nous innocenter, alors même que nous aurions mérité d'être punis. Elle le fait à cause de cet autre qui se soumet volontairement au châtiment. De cette manière, elle nous délivre du jugement, nous restitue dans notre pureté primitive, nous transforme par conséquent et nous sanctifie. Et pourtant, quand nous regardons nos vies, force nous est de constater qu'elles ne sont pas justes ni très saintes. C'est pourquoi la Bible nous demande de croire cette justice, même si nous ne la voyons ni ne la sentons. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul reconnaît, il reconnaît la contradiction qui existe entre la foi et l'observation. Il nous demande donc de prendre l'initiative et de croire à l'invisible plus au sérieux que au visible. Pour Dieu, dit-il en substance, les choses que vous jugez irréelles sont plus réelles que celles que vos yeux constatent. Il est donc extraordinaire de remarquer, comme nos jugements contredisent presque toujours ceux de Dieu, apprendre les choses de l'extérieur, nous nous considérons comme assez moraux, honnêtes et en sommes justes, alors que Dieu nous déclare entièrement pécheurs. Inversement, au moment où Dieu nous explique que nous sommes justes, nous nous souvenons, bien au contraire, de toutes nos imperfections. Enfin, c'est le moment ou jamais. C'est pourquoi la Bible nous demande, en quelque sorte, de nous transporter par la foi en Dieu pour pouvoir accepter en ce qui nous concerne le verdict qu'il prononce lui-même sur notre situation. Dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul écrit « Considérez-vous comme des gens morts avec Christ et ressuscités en lui. » Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie adopter sur vous-même le point de vue de Dieu. Or Dieu vous considère d'abord comme pécheur, ensuite comme juste par le fait, uniquement par le fait que Jésus-Christ a été fait péché pour nous et qu'il nous a enlevé notre faute. Tout est là. Et à ses yeux, vous êtes maintenant des justes, même si votre conscience vous reproche votre médiocrité. Vous pouvez en appeler au tribunal de votre conscience, à celui de Dieu, et là, vous apprenez qu'en réalité, vous êtes vraiment justifié à ses yeux. Tel est donc l'amour de Dieu qu'il nous tient pour justes, non pas pour que nous en profitions et fassions de la foi un oreiller de paresse, mais à cause de la mort du Christ et pour que nous ne doutions plus qu'elle a mis fin à l'histoire du péché. Et troisièmement, le troisième terme est celui de réconciliation. Vous êtes déjà réconciliés avec Dieu. N'en doutez pas et n'en doutez jamais. Évidemment, cette vérité est encore cachée, mais elle est plus vraie que l'évidence. Dieu nous a repris à lui dans l'histoire de son propre dépouillement en son Fils bien-aimé. Déjà, vous êtes morts avec lui et vous êtes ressuscités à une vie nouvelle. Avec qui ? Avec Christ. Annoncez-le donc autour de vous, surtout à l'ennemi. C'est tellement énorme que beaucoup refusent ce message. Il leur paraît trop simpliste. Mais le Saint-Esprit travaille et il convaincra lui-même tous ceux qui voudront bien croire avec un cœur simple, humble, comme un enfant. Comme un enfant croit à son Père. Croyons à notre Père céleste. Ne nous montrons pas surpris de l'opposition que nous allons rencontrer. Cette nouvelle est si considérable et bouleversante que peu nombreux seront ceux qui oseront y croire. Et pourtant, c'est la vérité. Je voudrais m'arrêter ici. Je me suis efforcé de ne rien enlever à ce mystère et de vous le rappeler dans sa grandiose plénitude. Certes, il est extrêmement contestable que Dieu ait agi de cette façon-là. Les objections fourmillent. En vérité, il n'est pas difficile de rejeter ce témoignage. Tout nous pousse au contraire à en contester carrément la vraisemblance et l'efficacité. Comment Dieu a-t-il pu se résoudre à se sacrifier ainsi ? Qui nous prouve que la mort de Christ soit suffisante pour libérer tous les hommes de leurs crimes. Il est de mon devoir de mentionner que tous ne sont pas libérés et absous de tout leur passé comme par une sorte de magie. Ce serait pas seulement un gros mensonge, mais totalement irresponsable de faire simplement croire tout cela selon le simple évangile de Saint Jean que je vous prie de lire. J'ai dû le lire 3 fois avec ma femme pour bien le comprendre. J'en ai même honte. Eh bien, lisez l'évangile de Saint Jean. Vous comprendrez tout. tout cela. Seuls ceux, croyez-moi, qui se sont reconnus coupables, ça vous le verrez dans l'évangile de Saint Jean, ceux qui se sont reconnus coupables et pardonnés, donc réconciliés en Christ, en ayant accepté son salut, peuvent être libérés. Comment l'histoire humaine pourrait-elle, par exemple, trouver dans cette courte vie d'un prophète galiléen à la fois sa fin et son nouveau commencement? De tout temps, l'Église s'est efforcée d'atténuer le scandale d'un tel message en l'enrobant dans des considérations morales, sentimentales ou religieuses. Plus acceptable, évidemment, pour nous. Mais n'est-ce pas cette folie que nous avons à prêcher? Et cette folie ne serait-elle pas la véritable sagesse de Dieu, d'autant plus vraie, peut-être, que notre raison déchue y répugne? Et si c'était vraiment la vérité, ne serait-ce pas dans ce cas le plus extraordinaire message que nous puissions entendre? Ne soyons donc pas trop surpris de la résistance que ce message rencontre, ni de nos propres doutes. Le pain du ciel nous apparaît souvent au début, plutôt comme ces pierres que Jésus-Christ n'a pas précisément pas voulu transformer en pain, souvenez-vous. Mais c'est parce qu'elle est dure que cette pierre est solide, qu'elle peut devenir le roc sur lequel Christ édifie toute notre vie. Ne nous laissons donc pas troubler, chers amis, mais contemplons cette œuvre inouïe et, si possible, laissons-nous pénétrer par elle pour devenir par la grâce et, à notre tour, des pierres vivantes. Je dis bien des pierres vivantes, des témoins de cette seule chose qui soit vraiment nécessaire et salutaire pour tout homme. Tout homme et toute femme, vous l'avez bien compris. Chers amis, nous allons terminer par la prière que vous pouvez simplement prier après moi dans votre cœur ou à haute voix, comme vous voulez. Je vais donc dire cette prière qui me vient dans le cœur par l'Esprit Saint pour vous. Je vais la dire lentement pour que vous puissiez la répéter. Prions. Nous louons notre Dieu et Père céleste en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous commençons une nouvelle journée qui nous rapproche de l'instant redoutable où nos âmes nous seront redemandées et paraîtront en jugement devant toi. C'est par nos œuvres, c'est-à-dire par nos actions et nos paroles, que nous pouvons montrer si nous sommes véritablement tes disciples, si nous demeurons en toi, si nous sommes tes rachetés et tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à nous juger nous-mêmes, afin que nous puissions reconnaître le véritable état de nos cœurs et que nous puissions te prier selon nos besoins. Tu nous donnes de nombreux avertissements de travailler à notre salut, non seulement dans ta sainte parole, mais aussi par les événements qui se sauvent, nous rappellent qu'il nous faudra bientôt quitter aussi cette vie. En effet, nous sommes rappelés souvent par ta sainte parole, car ne voyons-nous pas sans cesse des êtres pleins de jeunesse et de santé qui sont atteints par la maladie et la mort? Puisse chacun de nous se dire « et moi aussi, tôt ou tard je dois mourir, que deviendra mon âme? Quelle sera son éternelle destinée? Ta parole, ô Dieu, répond à ces questions. Celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, ne verra pas la vie. Puissions-nous donc être tous appelés à croire et à entrer dans le royaume des cieux. Ô Seigneur, écoute les prières que nous t'offrons pour nos parents, pour nos amis, et protège-nous tous. Attire-nous tous à toi, et que ton saint nom soit éternellement béni. Amen. Et chers amis, bien entendu, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour la peine que vous vous donnez à écouter ces études, ces messages. Pas toujours facile à comprendre, mais l'avantage, c'est que vous pouvez réécouter ces CD. Nous aurons donc, la prochaine fois, le dernier et quatrième sujet de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et cela concernera la résurrection. À bientôt à nouveau, mes très chers amis, au revoir, et merci pour votre écoute.